Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons partager la vie, enfin c'est une façon de parler, la découvrir en tout cas, d'un personnage pas forcément très très connu, puisque c'est en plus une personne au féminin. Pas très connu parce qu'on ne connaît en fait pas vraiment les détails de sa vie, et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui à travers une bande dessinée. Par contre, on en connaît une photo qui est très célèbre. Vous allez nous expliquer tout cela, Thierry. Il s'agit d'un album qui a pour titre « Les cinq vies de Lee Miller ». Voilà, j'ai donné son nom. C'est une bande dessinée réalisée par une Italienne, Eleonora Antonioni, qui, je ne pense pas qu'elle fasse partie de la grande famille de cinéastes, mais bon, on ne sait jamais, on n'a pas vérifié. En tout cas, c'est une parution Steinkiss, donc c'est « Cinq vies de Lee Miller ». Nous ramène à une photographie célèbre. Expliquez-nous laquelle, Thierry.
Alors, c'est une photo où Lee Miller joue un rôle de modèle qu'elle a joué dans la première partie de sa vie. C'est une photo dans un contexte tout sauf banal. C'est une photo où on la voit dans une baignoire. Alors, je vous étonne en disant cela. La baignoire d'un homme célèbre, malheureusement, très malheureusement célèbre. En fait, c'est une photo qui a été prise à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans un appartement de Munich, Regenplatz, l'appartement d'Adolf Hitler quand il résidait à Munich. Lee Miller est en train de prendre un bain dans la baignoire personnelle d'Hitler.
On peut dire que c'est une photo surréaliste et il y a plusieurs raisons à cela.
Alors, vous avez cité le mot surréaliste. Effectivement, c'est un courant artistique qui a accompagné la plus grande partie de la vie de Lee Miller. C'est vrai que c'est une photo, c'est un choc de contexte. Lee Miller, on la découvre, enfin moi je l'ai découverte en tout cas par cette biographie comme modèle cover girl, modèle pour des photographes, pour Man Ray, modèle pour des peintres comme Picasso. Modèle pour avoir participé au Sang d'un poète, le film de Jean Cocteau, mais je la connaissais surtout comme photographe. Auditeur la connaissait, je pense, comme correspondante de guerre. Il y avait tout un bataillon de correspondantes de guerre dans l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. On la connaît pour avoir été, alors je pense, la première, en tout cas une des premières, avoir photographié la libération des camps d'Achau et Buchenwald. C'est des photos qui se voulaient façon de témoigner de la réalité impensable, inimaginable, et puis de documenter pour les procès futurs qui allaient s'ouvrir dans l'immédiat, et montrer aussi qu'on ne pouvait pas ne pas savoir quand on habitait dans la proximité de ces camps. C'est une existence qui est marquée entre des allers-retours entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. C'est entre une forme de futilité, les filles qui posent pour les magazines, pour la mode, etc., puis son destin de correspondant de guerre. C'est quelqu'un qui a commencé sa vie choyée dans un foyer où elle était placée vraiment sur un piédestal par rapport au reste de la famille. Son père, c'était quelqu'un de très cultivé, qui est passionné de photos, qui pratique la photo, qui l'encourage à pratiquer la photo. Chose plus troublante dans le mauvais sens du terme, c'est qu'il a pris l'habitude de photographier sa fille avec certaines de ses amies du même âge, dans des postures lointainement inspirées de l'art grec, mais surtout dans un aspect très dénudé. Est-ce que ça amène au premier grand drame de sa vie, c'est-à-dire un viol subi à 7 ans et le fait qu'elle ait contracté une maladie, une MST?
Mais semble-t-il pas à cause de son père, mais non, plutôt d'amis?
Non, oui, vous faites bien de le préciser, mais on a fait des recherches et j'ai pas trouvé de renseignements plus précis à ce sujet. Donc c'est quelqu'un qui oscille entre le drame et la légèreté, qui va faire, on le disait, d'une façon tout à fait fortuite, une carrière de modèle dans la presse la plus chic.
Elle va faire la une de Vogue, par exemple.
Par exemple.
Condé Nast, c'est pas seulement un éditeur, c'est aussi un personnage à l'époque.
Oui, c'est quelqu'un qui va, bon, du fait de son milieu d'origine, elle va côtoyer la haute société. C'est les années folles de l'Amérique d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui va très tôt aller en Europe, qui va faire une rencontre déterminante avec Man Ray. C'est là que je me suis souvenu d'ailleurs en lisant cette biographie, j'avais entendu parler de Lee Miller en tant que modèle en lisant l'histoire de Kiki de Montparnasse, qui était la muse un peu de tous ces personnages hauts en couleur à l'époque où Paris était le centre de la vie artistique mondiale. On y parlait de Lee Miller en tant que modèle, en tant que maîtresse et en tant que collaboratrice très proche de Man Ray. Dans cet album dont nous parlons aujourd'hui, on laisse vraiment entendre que beaucoup de photographies de Man Ray sont en fait réalisées par Lee Miller, qui a été très tôt sa collaboratrice et beaucoup plus que cela. Mais ces photos, elles sont signées Man Ray. On y verra une preuve de machisme ou de domination masculine mal placée. Mais Man Ray, c'est un des piliers du surréalisme. Et le surréalisme, c'est un courant de pensée qui ne va jamais quitter Lee Miller tout au long de sa vie.
Et Lee Miller, plutôt que de poser, préférait prendre des photos.
Oui, elle ne veut pas seulement être objet, elle veut être, active. La photo, c'est quelque chose d'encore assez neuf, si l'on y réfléchit à l'époque. La photo d'art, la photo de création. Penser une femme qui s'intéresse à la photographie, c'est...
C'est osé.
C'est, voilà. Ça peut être perturbant. Et comme on le disait en introduction, parce que j'ai un peu bousculé la chronologie, mais vous m'y avez poussé en parlant de cette photo iconique de Lee Miller, c'est quelqu'un qui va pratiquer la photo sous tous les aspects. Aspect artistique, aspect de publicité, puis aspect de reportage, et de reportage dans un contexte particulièrement dramatique, la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a une vie très remplie, une vie personnelle très remplie avec des mariages ou des liaisons successives très riches en émotions. C'est quelqu'un qui a une longue vie, c'est quelqu'un qui a une fin de vie étonnante. Elle va en quelque sorte s'assagir. Elle va devenir prescriptrice de recettes de cuisine. Effectivement, elle s'est intéressée à la gastronomie lors de son séjour parisien.
Ce qui n'était pas forcément évident pour une femme, là, d'ailleurs.
Là encore, c'était nouveau à l'époque, parce que c'était... Si les femmes étaient devant les fourneaux et ne sortaient pas de leur cuisine, c'est pas une façon de dire qu'il faut qu'elles restent devant leur fourneau.
J'espère que vous n'êtes
c'est
pas
un
machiste,
état de fait.
Thierry.
Hein. Il y a, Dieu merci, attention. Bien changé. Oui, elle va devenir une papesse de la cuisine. Mais alors, ce qui est très drôle, ce que j'ai découvert en lisant cet ouvrage, c'est que il va rester quelque chose du surréalisme, parce que il y a certaines de ses recettes qui sont tout à fait orthodoxes, mais d'autres qui sont assez délirantes, et ce qui m'ont fait penser plutôt aux recettes de Gaston Lagaffe, la morue aux fraises.
Excellent. Hein. Le Blue Bulga aussi, il y a des fraises dedans.
Voilà, oui. Mettez des fraises partout, surtout avec le salé.
Elle avait épousé d'ailleurs à la fin de sa vie, enfin la dernière partie de sa vie, quelqu'un à nouveau qui était surréaliste et qui plus est anglais.
Est-ce que ce n'est pas inévitable quand on est anglais d'être surréaliste ?
J'entendais
C'était de l'humour français par rapport aux anglais.
Surtout par les temps qui courent, attention à votre humour Thierry, toujours.
Non, je dirais qu'il y a vraiment un surréalisme français et il y a un surréalisme belge. Mais l'Angleterre, c'est plutôt l'absurde. Enfin bon, on pourrait en débattre longtemps. Et si on nous lance sur le surréalisme, on va faire plusieurs émissions d'affilée. Ce ne sera pas raisonnable.
Cet homme, pour lui rendre hommage, s'appelait Roland Penrose. Alors, parlons un petit peu de la manière à laquelle cette bande dessinée est menée ici par Eleonora Antonioni, une bédéaste qui est italienne. Alors, moi, je dois dire que je suis partagé. Cet album m'a assurément fait découvrir Lee Miller. Par contre, je trouve que le dessin d'Eleonora Antonioni est soit trop, soit pas assez assuré, quelque part.
Oui.
Entre deux.
Il y a quelque chose d'un peu hiératique, d'un peu glacé. Alors après, si vous regardez des photos de Lee Miller, elle avait un port de reine. Elle avait une façon de poser. Elle avait un regard très vite assez grave, voire triste. Mais sa vie n'a pas été facile, elle n'a pas été de tout repos, on le disait. Et il y a quelque chose qui se retrouve dans le dessin, dans le parti pris, dans la couleur aussi. On vous parle de cet album pour le fantastique intérêt du personnage qui y est évoqué. Moi, pour la réalisation, toujours très modestement, je dis, je serais bien incapable de dessiner la moindre de ces planches. Donc, j'ai révérence gardée pour les créateurs. La motivation première, c'est de découvrir toutes les facettes de cet incroyable personnage qui était Lee Miller.
Il faut dire que le récit est abondant ici. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui nous sont données. Il faut prendre le temps de lire. En tout cas,
oui,
ça a été mon cas.
Oui, parce que Lee Miller, je l'évoquais, j'en avais des souvenirs, j'en avais des images, j'en avais quelques renseignements tirés de biographies d'autres personnes qui fréquentaient le même milieu à la même époque, mais je n'avais jamais lu une biographie complète. Et Dieu sait s'il y a de quoi raconter par rapport à Lee Miller. Donc c'est un album tout à fait passionnant.
Et c'est toute une époque, parce que, je précise, vous disiez que Lee Miller avait vécu longtemps. Elle est née en 1907, elle est morte en 1977, et beaucoup de choses se sont passées.
Elle a connu beaucoup de bouleversements au niveau de la société, au niveau du monde, des changements vraiment de façon de vivre qui sont très significatifs pour quelqu'un qui a traversé ces années-là. Oui.
Et ce n'est pas pour rien que cet album s'appelle « Les cinq vies de Lee Miller ». Nous les partageons grâce à l'éditeur Steinkiss et surtout Eleonora Antonioni. Merci beaucoup Thierry d'avoir partagé cette lecture avec nous. On se retrouve bientôt pour un autre ouvrage.